Chapitre 24. Prêt sur gage. Concord, New Hampshire. Samedi 17 juillet 2010. Gallowood asséna d'emblée.
Eric, vous vous souvenez de notre discussion d'hier? Je vous ai dit que si vous me mentiez encore, je lâchais votre dossier.
Eric eut l'air effrayé.
Je ne vous ai pas menti, sergent. De quoi parlez-vous?
Lorraine agita sous ses yeux un sac plastique dans lequel se trouvait sa montre, ou plutôt celle de Robbie Sanders. Elle demanda d'un ton sec.
« Tu reconnais cet objet ?»«
Oui, c'est ma montre, »
répondit Eric déconcerté.
« Non, ce n'est pas ta montre. C'est une montre volée. Tu sais pourquoi elle est dans un sac plastique ? Parce qu'elle est liée à une tentative de meurtre d'un policier de Salem. »«
Quoi ? Attendez, je ne vous suis plus du tout maintenant. » »«
Le 8 octobre 1998, »
dit Lorraine,
« Alaska et Walter se sont introduits chez les parents d'Alaska. » Ils ont volé cette montre et dans leur fuite, ils ont percuté un flic qui voulait les intercepter. Tu veux me faire croire que tu l'ignorais?
Évidemment que je l'ignorais.
Eric, pour une fois dans ta vie, sois honnête. Est-ce que tu as fait chanter Alaska?
Mais non, enfin, qu'est-ce qui te prend?
Lui as-tu envoyé des messages pour obtenir quelque chose d'elle, comme tu l'as fait avec Sally Carey?
Non, je le jure!
Est-ce que tu as tué Alaska? Est-ce que c'est toi qui l'as tué, bon sang?
Mais non, ça fait 11 ans que je m'évertue à clamer mon innocence. Alors parle, crache le morceau. Comment as-tu obtenu cette montre?
Alaska me l'a vendue, pour $10,000. Elle avait désespérément besoin de fric.
Mount Pleasant, janvier 1999. Alaska avait donné rendez-vous à Eric au Season. Lorsqu'il arriva, elle l'attendait à une table isolée du fond de l'établissement. Elle semblait nerveuse.
« Tu bois quelque chose ?»
demanda-t-elle. « J'ai demandé un café à Regina. Qu'y a-t-il de si urgent ?»«
J'ai un problème, Eric. J'ai besoin de $10,000. »«
Ça fait une sacrée somme. Pourquoi tu as besoin de cet argent ?»«
Je le dois à Lewis Jacob. Enfin bref, c'est pas tes oignons. Tu peux m'aider ou pas ?»«
C'est une grosse somme à avancer. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai les moyens ?»
Tu avais une bonne situation à Salem. Tu habites chez tes parents, donc tu n'as pas de frais fixes. Tu as souvent des nouvelles fringues. Et puis, je peux te fournir des garanties.
Eric s'amusa de cette réplique. Quel genre de garantie? Elle exhiba une montre en or. Eric siffla d'admiration.
Bah, dis donc, c'est pas n'importe quoi, ça.
Je sais. Montre en or, bracelet en alligator, ça vaut bien $30,000. Je te la laisse en gage. Tu me la rends quand je te rembourse.
Si tu ne m'as pas remboursé d'ici 1 an, elle est à moi.
Marché conclu, dit Alaska. Je ne te demande qu'une chose. Ne porte pas cette montre et surtout ne parle pas de notre arrangement à Walter. Il ne comprendrait pas. Je peux compter sur toi? Tout ceci doit rester entre nous.
Ton secret est bien gardé, assura Eric.
Quand est-ce que tu peux m'apporter l'argent?
Demanda alors Alaska.
Tout de suite, la banque est en face.
On s'est rendu à la banque, nous expliqua Eric. J'ai fait un retrait et Alaska m'a laissé la montre. Après sa mort, je me suis demandé ce que je devais en faire.
Pourquoi ne pas en avoir parlé à la police?
Demanda Lorraine.
Ça aurait été une preuve supplémentaire contre moi, fit remarquer Eric. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de pas net autour de cette montre. Surtout qu'Alaska m'avait dit de ne pas en parler à Walter. En parlant aux flics à l'époque, c'était m'enfoncer davantage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vol?
Le père d'Alaska lui avait vidé son compte, expliqua Gallowood. Elle a voulu se venger ou tout du moins se dédommager. Donc Alaska vous a expliqué que ces $10,000 étaient destinés à Lewis Jacob?
Oui, je pensais qu'elle avait piqué dans la caisse, mais elle ne m'en a pas dit plus. Allez poser la question à Lewis.
C'est bien ce que nous comptons faire.
Eric Donovan avait été pris dans un engrenage qui l'avait réduit au silence, entravant l'enquête. Tout ce qu'il aurait pu livrer à la police il y a 11 ans et qui aurait donné un éclairage différent à l'affaire l'aurait enfoncé davantage. D'une certaine façon, le père d'Alaska s'était piégé lui-même de manière similaire. Tous les deux s'étaient tus par peur des conséquences. Mais ce faisant, c'est le meurtrier d'Alaska qu'ils avaient protégé. Ils étaient coupables de leur silence. Et nous nous apprêtions à découvrir que Lewis Jacob aussi. Ce dernier était chez lui ce jour-là. Nous le trouvâmes assis devant sa maison, dans une de ces chaises adirondacks en bois typique de la Nouvelle-Angleterre. Il nous accueillit de son air avenant.
« Votre enquête avance ?»
nous demanda-t-il.
« Oui, » lui répondit Lorraine. « Et nous avons une question concernant Alaska à laquelle vous devriez pouvoir répondre. »
« Je serais heureux de pouvoir vous aider. Rentrons à l'intérieur, nous y serons mieux. Et vous direz bonjour à ma femme. Elle aime bien quand il y a du monde à la maison. »
« Lewis, » lui précisa Lorraine, « c'est une conversation privée. »
Il s'amusa de cette remarque.
« 50 ans de mariage, je n'ai rien à cacher. Phyllis me connaît par cœur. Je n'ai pas de secret pour elle. »
Et pourtant, il en avait. Le problème avec certains secrets, c'est qu'on en vient à les oublier soi-même. Un beau jour, il remonte à la surface comme des égouts qui débordent. Phyllis Jacob était dans sa cuisine.
« Chérie, c'est à propos de l'enquête sur Alaska, »
annonça son mari. Son ton joyeux révélait le plaisir d'avoir une visite.
« Vous progressez ?»
demanda Phyllis Jacob.
« Oui, madame, » lui répondit Gaal Wood. « Nous sommes venus demander à votre mari pourquoi il a exigé qu'Alaska lui verse $10,000 au début de l'année 1999. »
Phyllis Jacob resta stupéfaite. Son mari se décomposa. Il s'assit sur une chaise et prit son visage entre ses mains. Gaal Wood répéta sa question.
« En janvier 1999, Alaska a mis en gage une montre de valeur en échange de $10,000 qu'elle vous devait. Que s'est-il passé, monsieur Jacob ?»«
Que s'est-il passé, Lewis ?»
répéta sa femme.
« Il y a eu un incident à la station-service. »
Dimanche 3 janvier 1999. Il était tôt lorsque Lewis Jacob arriva à la station-service. En général, il était en congé le dimanche. C'était son employée, Samantha Fraser, qui tenait le magasin. Il aimait bien Samantha, une jeune femme avenante, appréciée des clients. C'était une travailleuse. La semaine, elle suivait une formation pour devenir infirmière. Le soir, elle travaillait dans un McDonald's et le dimanche, à la station-service. Samantha et Alaska se ressemblaient. Elles avaient tout pour elles. Selon Lewis Jacob, leur seul défaut était leur copain. Il considérait qu'Alaska était tirée vers le bas par Walter, qui ne lui promettait qu'un avenir étriqué à Mount Pleasant. Au moins, Walter était sympathique. Samantha, elle, fréquentait depuis des années Ricky, un ancien tollard qui lui tapait dessus pour un oui ou pour un non. Ce dimanche-là, Samantha avait téléphoné à Lewis Jacob.
« Faut que vous veniez ici, monsieur Jacob, » lui indiqua Samantha.
« Que se passe-t-il ? »
« Un problème. »
« Quel genre de problème ?»
Il entendit alors une voix railleuse en arrière-fond.
« Faut vous ramener ici, Jacob. Vous avez un énorme problème. »«
Samantha, qu'est-ce qui se passe ?»
s'inquiéta Lewis, qui crut d'abord qu'elle était victime d'un braquage.
« C'est Ricky, monsieur Jacob. Faut vraiment qu'on vous cause. Venez ici, sinon Ricky dit qu'il va venir chez vous. »
Lewis Jacob avait donc rappliqué dardard. En entrant dans la station-service, il trouva Samantha et Ricky derrière le comptoir.
« Cochon !»
s'exclama Ricky d'un ton à la fois rigolard et désobligeant. Lewis ne comprenait rien à ce qui se passait, mais son estomac noué ne lui présageait rien de bon.
« Pourquoi vous avez fait ça, monsieur Lewis ?»
demanda Samantha.
« Je pensais que vous étiez respectueux. »«
Fais quoi ?»
Ricky brandit alors un petit caméscope qu'il venait de détruire à coups de pied.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Lewis Jacob.
« Ne faites pas l'innocent !»
intima Ricky, dont la voix était à présent agressive.
« Ce truc était dissimulé dans la pièce qui sert de vestiaire aux filles. Vous filmez vos employés quand elles se changent, espèce de gros dégueulasse. Ça vous excite ? J'aurais bien voulu voir les images, mais il n'y a pas de cassette dans la caméra. Où sont les bandes, sale porc ?»
Lewis était abasourdi.
« Ricky, Samantha, je n'y suis pour rien, » assura-t-il. « Vous devez me croire, je ne sais pas d'où sort cette caméra. »«
La ferme, pauvre merde !» ordonna Ricky. « Je veux pas entendre vos explications de pervers. Je veux du fric. »«
Oui, monsieur Jacob, » surenchérit poliment Samantha. « On voudrait de l'argent. »«
Si vous payez, je vous fous la paix. Par contre, si vous ne payez pas, je vous crame votre station-service, je vous crame votre maison, je vous crame tout, c'est pigé. Puis je vous crame les couilles aussi. »
Lewis Jacob comprit qu'il n'avait aucune chance de convaincre Ricky qu'il n'avait pas mis de caméra dans le vestiaire. Il n'eut à cet instant qu'une idée en tête, se débarrasser d'eux.
« Combien vous voulez ?»
demanda-t-il.
« $100 !»
s'exclama Samantha.
« Eh non, idiote, beaucoup plus !»
beugla Ricky.
« $500 !»
annonça alors Samantha.
« Non, vachement plus !»
hurla Ricky.
« Je veux $20 000 !»«
Je ne les ai pas !» dit Lewis. « Je n'ai pas cette somme. Je ne pourrai jamais vous payer. »«
T'as combien ?»
demanda Ricky, qui n'était pas rompu à l'art de la négociation.
« Je dois pouvoir vous donner $10 000 !»«
Et pourquoi je devrais te croire ?»
interrogea Ricky.
« Je suis sûr que t'as beaucoup plus que ça. J'ai vu le coffre-fort dans ton bureau. »«
Il est pour ainsi dire vide. »
se lamenta Lewis.
« Je peux vous montrer ?»
Lewis conduisit le couple dans son bureau étroit. Il ouvrit le coffre-fort, dans lequel il y avait $300 en liquide. Ricky les empocha aussitôt. Lewis Jacob gardait ses documents bancaires professionnels et privés dans le coffre. Il put montrer ses derniers relevés à Ricky.
« Tu vois que je ne te mens pas. Il y a de l'argent sur notre compte commun, Phyllis et moi. $10 039.40. C'est de l'argent qu'on a mis de côté en cas de pépin. »
« Ça tombe bien, » dit Ricky. « Tu as un gros pépin. Je veux mes $10 000 avant une semaine. »«
Tu les auras, »
promit Lewis. Ricky tourna les talons d'un air satisfait.
« Allez, viens, Sam, » dit-il à sa petite copine. « On se tire. »
Samantha adressa un regard gêné à son patron.
« Vous voulez que je finisse ma journée, monsieur Jacob ?»«
Non, c'est bon. »«
Une semaine, papy !» rappela Ricky. « Si dimanche prochain t'as pas le fric, gare à toi. Tiens, tu peux garder ta caméra de merde, ou plutôt ce qu'il en reste. »
Ils partirent tous les deux, abandonnant Lewis à son désespoir. Il avait de la peine à comprendre ce qui s'était passé. Il téléphona à sa femme pour lui dire que Samantha était malade, qu'il l'avait renvoyée chez elle et qu'il devait rester à la station-service. Puis il se mit à réfléchir. Il savait que ce n'était pas lui qui avait placé cette caméra dans le vestiaire. Les deux autres personnes qui disposaient d'une clé étaient Samantha et Alaska. Cette histoire de caméra était donc soit un coup monté par Samantha et Ricky pour lui soutirer de l'argent, soit c'était Alaska. Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille ? Pourquoi filmer le vestiaire et a fortiori Samantha, puisqu'elle était la seule autre personne à utiliser cette pièce ? Lewis poussa encore sa réflexion. Il avait fermé le magasin la veille. Il avait comme toujours jeté un œil dans le vestiaire avant de partir. S'il y avait eu une caméra, il l'aurait sans doute remarqué. La pièce était minuscule, difficile d'y dissimuler quoi que ce soit. Donc si c'était Alaska qui l'avait placée là, elle avait dû venir le matin avant l'ouverture. Et si elle était venue, elle avait été filmée par les caméras de surveillance. Lewis contacta aussitôt son neveu qui lui avait installé le système de surveillance et qui était le seul à savoir naviguer dans le disque dur. Mais le neveu en question ne pouvait pas se libérer le jour même et le disque dur s'effaçait automatiquement au bout de 24 heures. Lewis Jacob n'eut pas d'autre choix que de convoquer Alaska et de lui poser la question.
Donc c'était bien Alaska qui avait placé cette caméra dans le vestiaire,
demanda Gale Wood.
Oui,
répondit Lewis.
Je l'ai confondu ce même jour. Je lui ai demandé de venir à la station-service et je lui ai brandi le caméscope. C'est à toi ça ? Lui ai-je demandé. Elle s'est aussitôt décomposée. J'ai compris que ça voulait dire oui. Je lui ai alors raconté ce qui venait de se passer. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a demandé pardon.
Dimanche 3 janvier 1999.
Pardonnez-moi, monsieur Jacob,
sanglota Alaska.
J'ai déconné.
Déconné ? Ça, on peut le dire. Je ne peux pas croire que tu me mettes dans une situation pareille. Je suis tellement déçu.
C'était juste pour rigoler avec Samantha,
expliqua Alaska.
Ce cinglé de Ricky a pété un plomb. Je sais que Samantha a essayé de l'empêcher de vous nuire, mais ce Ricky est incontrôlable.
Et que suis-je censé faire maintenant ? Payer $10 000 à Ricky ? Il dit qu'il va mettre le feu à la station-service si je ne le fais pas, et je sais qu'il en est capable.
Je vous rembourserai, promit Alaska, jusqu'au moindre centime. Vous pouvez le retenir sur ma paix aussi longtemps que nécessaire. Oh, monsieur Jacob, je regrette tellement de vous avoir mis dans ce pétrin.
Ricky veut son argent d'ici dimanche. Je n'ai aucun moyen de le payer si ce n'est de vider notre compte commun à Phyllis et moi. Elle le remarquera aussitôt. Il faut que je lui en parle.
Surtout pas, supplia Alaska. Elle va en parler, peut-être me dénoncer à la police. Tout se sait si vite dans cette ville. Je vais vous apporter l'argent. Je vais me débrouiller, c'est à cause de moi tout ça.
Où vas-tu trouver une somme pareille?
Ne vous inquiétez pas pour moi, monsieur Jacob. Je vais tout arranger. Je vous dois bien ça, vous êtes si bon avec moi et voilà comment je vous remercie.
Quelques jours plus tard, elle m'a porté l'argent,
nous raconta Lewis Jacob.
J'ai immédiatement payé Ricky, et c'était la fin de l'histoire. Nous n'en avons plus jamais parlé.
Donc vous ignorez pourquoi Alaska avait placé cette caméra dans le vestiaire ? Demandai-je.
Oui.
Et Samantha, qu'est-elle devenue ?
Elle est venue le dimanche suivant prendre son service comme si de rien n'était. Je lui ai demandé ce qu'elle fabriquait là, et elle m'a dévisagé avec son air d'ingénu. Je suis viré ? Je lui ai répondu que oui, et elle était triste et offusquée. Je vous aime beaucoup, monsieur Lewis. Moi aussi, je t'apprécie, Samantha, mais tu viens de me racketter quand même. J'étais coincé, et vous avez bien vu que j'ai essayé de jouer les idiotes face à Ricky. Désolé, Samantha, mais tu ne peux pas rester ici. Son licenciement a été de courte durée. Quelques jours plus tard, elle s'est pointée, le visage tuméfié. Elle m'a supplié de la reprendre en me disant que je payais bien mieux que le McDonald's. « Ricky dit qu'il nous faut du fric, que je dois travailler. »« Est-ce qu'il travaille, lui ?»« Non, il n'aime pas trop ça. » Alaska s'en est mêlée. Elle m'a reproché de punir Samantha d'une bêtise qu'elle avait elle-même commise. « C'est trop injuste, me dit-elle. Si vous virez Samantha, je démissionne. » Je n'avais aucune envie de perdre Alaska. Alors j'ai repris Samantha. Mais voilà que quelques semaines plus tard, Samantha a démissionné du jour au lendemain. Elle avait plaqué ses études et partait en road trip avec Ricky. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles.
Lewis, demanda Lorraine, pourquoi n'avez-vous pas raconté tout cela à la police au moment de la mort d'Alaska?
J'ai hésité à le faire, mais j'ai d'abord craint qu'on ne pense que j'étais mêlé à sa mort. À l'époque,
fit remarquer Galwood, vous nous parliez d'Alaska tout en superlatif, sans même évoquer cette histoire de caméra. À aucun moment donné, vous n'avez laissé entendre un côté plus retors chez Alaska.
Retors? Elle n'avait rien de retors. Ce n'était qu'une fille de 22 ans qui avait fait une connerie, qu'elle avait assumée d'ailleurs. Et puis j'avais la trouille quand même. Ricky et Samantha avaient disparu pour le moment, mais je redoutais qu'ils ne ressurgissent et m'accusent avec cette histoire de caméscope. C'était ma parole contre la leur. La police m'aurait pris pour un pervers. J'étais la dernière personne à avoir vu Alaska en vie, et on l'avait retrouvée morte à 1 kilomètre de ma station-service. Donc j'ai préféré d'abord ne rien vous dire. Mais j'aurais probablement parlé si Walter n'avait pas été arrêté 2 jours plus tard. L'enquête était bouclée. J'ai considéré qu'il valait mieux garder cette histoire pour moi.
« Vous avez eu tort, » regretta Galwood.
Lewis Jacob, qui ressentit sans doute le besoin de justifier sa bonne foi, nous dit alors «
J'ai mentionné tout ça dans mon testament. Je ne voulais pas emporter le secret dans ma tombe. »
Phyllis Jacob, qui avait jusque-là écouté son mari dans un silence sidéré, parla enfin.
« Tu as rédigé un testament ?»«
Oui, je l'ai déposé auprès du notaire Brown, avec la cassette. »«
La cassette ?» répéta Galwood. « Quelle cassette ?»«
Le dimanche 28 février 1999... » Samantha est venue me voir chez moi pour m'annoncer sa démission. Il était tard. J'étais très surpris de la voir. Elle m'a dit « Je vous quitte, monsieur Jacob. Je suis obligé. J'ai laissé ma clé du magasin à Alaska, elle vous la rendra demain. » Samantha m'a expliqué qu'elle allait prendre le large avec Ricky. Puis elle m'a tendu une petite cassette digitale et elle m'a dit « Donnez ça à Alaska, s'il vous plaît. C'est à elle. C'est un souvenir. » J'ai pris la cassette, mais je ne l'ai jamais donnée à Alaska. Je voulais d'abord voir ce qu'il y avait dessus, par curiosité. Mais je n'avais pas l'appareil adéquat. Un mois s'est écoulé, puis Alaska a été assassinée. Et moi, j'avais cette foutue cassette. Je viens de vous le dire, j'avais peur de devenir suspect. Et puis dans les petites villes, les réputations se défont très vite. Les gens allaient bouder ma station-service. Toutes mes économies étaient là-dedans. J'ai imaginé que la cassette contenait peut-être des images d'Alaska tournées dans le vestiaire de ma station-service. J'allais au-devant de gros problèmes. Je voulais m'en débarrasser au plus vite, mais j'avais quand même mauvaise conscience de le faire. Alors je l'ai mise dans une enveloppe et je l'ai déposée chez le notaire, avec la consigne de l'ouvrir à ma mort.
Eddie Brown était notaire à Mount Pleasant depuis 1955. Il était le plus ancien et le seul homme de loi de la ville. Malgré ses 80 ans passés, il travaillait encore et se rendait tous les jours à son bureau. Ce samedi-là, lorsque nous débarquâmes chez lui, il fallut déployer une opération de charme pour qu'il accepte de quitter son fauteuil, son livre et sa limonade pour nous accompagner à son cabinet.
« Ça ne pouvait pas attendre lundi »,
grouspéta-t-il pendant que je l'aidais à monter à bord de ma voiture. Le notaire Brown était encore en bonne forme, et je crois que notre irruption dans sa routine du week-end l'amusait.
« Pas tous les jours qu'on aide la police sur une enquête criminelle »,
nous dit-il. Puis se tournant vers moi,
« J'ai lu vos bouquins, jeune homme. Citez-moi dans le prochain, voulez-vous ? Ça me plairait beaucoup. »
Dans son cabinet, Eddie Brown disposait d'une armoire forte.
« Tous les secrets de cette ville sont ici »,
se plut-il à nous raconter. Il mit rapidement la main sur l'enveloppe laissée par Lewis Jacob. À l'intérieur, une cassette digitale et une lettre datée du 11 avril 1999 et signée par Lewis Jacob, dans laquelle il racontait les faits tels qu'il nous les avait livrés une heure auparavant. « Y a-t-il une chance que cette cassette soit encore exploitable ?» demanda Lorraine.
« Je l'espère, » dit Galloway. « Je vais aller immédiatement à Concorde la porter aux équipes techniques. On verra bien. »
Cet épisode marquait un nouveau tournant dans l'enquête. Et si les menaces reçues par Alaska ne concernaient pas le cambriolage chez ses parents, mais ce caméscope qu'elle avait dissimulé dans le vestiaire de la station-service ? « Je sais ce que tu as fait. » Ces mots pouvaient-ils être l'œuvre de Ricky ou Samantha ? Avait-il découvert que c'était Alaska qui avait installé cette caméra ? Après avoir extorqué Lewis Jacob, avait-il voulu faire chanter Alaska ? Il fallait les retrouver, mais nos indices étaient minces. Si nous avions le nom complet de Samantha, nous ignorions en revanche le patronyme de Ricky. Après avoir déposé le notaire chez lui, Galloway me demanda
« Vous m'accompagnez à Concorde ? Je vais donner la cassette et démarrer mes recherches sur Samantha et Ricky.
Ah, désolé, sergent, je dois filer.
Où allez-vous, l'écrivain ?
Je dois me rendre à une invitation. Cet après-midi-là, je pris la route, seul, en direction du Maine. Une heure plus tard, j'arrivais dans la charmante bourgade de Bridgeton. J'étais en avance. Je déambulais en ville, puis quand ce fut l'heure, je me rendis à l'auditorium du lycée municipal où avait lieu le concert. Les places étaient numérotées. Je m'installai à mon siège. Peu à peu, la salle se remplit, sauf le fauteuil à côté de moi. Lorsque les lumières s'éteignirent, il était toujours vide. Le spectacle débuta sur un premier extrait de Madama Butterfly, America Forever. À cet instant, une silhouette se faufila et vint s'asseoir à côté de moi. C'était Harry Kéber. Le spectacle terminé, nous suivîmes sans échanger un mot le flot des spectateurs qui sortaient de l'auditorium. Sur le parking du lycée, une roulotte vendait de la nourriture à emporter. Harry la visa et me dit « Je vous paie à dîner ».